D'accord. Bon, Monsieur Piaget, je vais commencer par vous demander votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
Alors, moi, je suis né le 23 juillet 1928 à Besançon, à quelques 300 mètres d'ici.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
Et votre famille d'origine ?
Alors, mon père venait de Suisse. Il a fait ses études d'horlogerie à Neuchâtel.
Oui, d'accord.
Et il est originaire d'un petit pays près de la frontière, qui s'appelle les Verrières. Et donc, je ne sais pas pourquoi il est venu à Besançon. J'en sais rien. En tout cas, mon grand-père et mon père sont venus à Besançon.
Voilà. Mais
je sais pas
pourquoi. Ils étaient Suisses ou dans...
Ils étaient toujours Suisses.
Toujours Suisses.
Toujours Suisses. Il a gardé la nationalité suisse jusqu'à sa mort.
Ah ouais, d'accord. Et votre mère ?
Alors, ma mère était française. Et ma foi, à ma naissance, elle est partie. Et j'ai pas eu de nouvelles.
Voilà. Ah bon ?
Donc, j'avais la double nationalité, suisse et française, mais à partir du moment où on faisait son service militaire, on ne gardait plus que la nationalité française. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
D'accord. Et vous pouvez me raconter votre enfance un peu ?
Ben, moi, j'étais dans un quartier pauvre de la ville,
oui.
Le quartier Battant, et... Mon père était horloger-rabilleur, c'est-à-dire qu'il travaillait à domicile pour réparer des montres. Avec,
oui.
Il avait son établi, son outillage, petite machine. Et j'étais plutôt laissé à l'abandon, tout seul, mon père. Il avait malheureusement pas beaucoup de temps pour s'occuper de moi. Et j'ai commencé dans les bandes de peut-être un peu voyous de quartier, du quartier Battant. Je crois d'ailleurs que si mon père est décédé, donc en 1943,
oui.
Et il avait organisé la suite en cas de décès, je devais aller dans une famille d'Italiens, d'origine italienne, de Besançon. Je crois que ça m'a un peu sauvé, parce que si j'étais resté à Battant, j'aurais probablement mal fini. Mes copains autour de moi, il y en a plusieurs qui ont mal terminé.
Oh,
donc à partir de vols, de toutes sortes de d'incivilités, bon, il y a eu des vrais problèmes pour les autres par la suite. Moi, j'étais sorti de ce milieu-là et je suis venu habiter presque au début de la campagne, à quelques 500 mètres d'ici.
D'accord.
Et c'est peut-être ça qui m'a ramené dans un autre chemin.
Dans une famille italienne ?
Famille italienne très croyante, donc qui... Le père était maçon,
oui.
La mère au foyer, voilà, avec trois enfants. Il avait trois enfants, et moi, donc j'arrivais le quatrième.
Et donc, vous avez vécu l'occupation ici, la guerre
bien
et l'occupation ?
Bien sûr, oui. Oui, jusqu'à la libération en septembre 44. Donc, voilà. Alors, donc, moi, j'ai pris le chemin de l'école technique de mécanique.
Oui.
Je faisais 4 kilomètres. Je faisais 4 kilomètres 4 fois par jour à pied pour aller à l'école, sortir le midi, venir manger donc chez les nouveaux parents.
Oui.
Et repartir à l'école, etc. Voilà. Alors j'ai fait 3 années d'école technique.
C'était quel genre de formation ?
Alors c'était une formation, donc ce qu'on appelle le CAP, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle.
Oui.
Et puis, un petit peu plus haut, un brevet d'enseignement industriel. C'était un petit peu pompeux, mais disons qu'on avait des bases théoriques et pratiques de la mécanique. Point. Hein, ça n'allait pas plus loin que ça quand même.
Donc voilà. C'était jusqu'à quel âge ?
Alors là, moi, je suis sorti, j'avais 17 ans et quelques, 17 ans et demi, je ne sais plus, voilà.
Et entre-temps, vous dites que votre famille était catholique pratiquante,
oui.
Vous aussi,
oui.
Vous étiez
moi,
pratiquant ?
Non, j'étais... Mon père était protestant, mais pratiquait pas. Donc, à l'époque, ça se faisait comme ça. J'ai eu une marraine qui était une voisine,
Oui.
qui s'est occupé de moi et qui m'a inscrit au catéchisme, etc. Voilà. Bon. C'est comme ça que j'ai suivi le parcours catholique. Mais sinon, je n'étais pas vraiment préparé à ça
Oui.
par mon père.
D'accord. Mais plus tard, vous avez découvert l'Action catholique?
Oui, alors plus tard, quand je réfléchis, je crois que j'ai jamais vraiment, je suis jamais vraiment entré dans le christianisme, le catholicisme, etc. Par contre, tous les évangiles sociaux, tout ce que j'avais retenu de tout ça m'intéressait pas mal.
D'accord.
J'étais intéressé par ça. Le souci de justice, le souci de fraternité, enfin bon, sur le fond de la religion, beaucoup moins. Voilà.
D'accord. D'accord. Donc vous avez commencé à travailler
Alors,
vers...
oui, j'avais presque 18 ans, donc à Lippe. Alors, donc, la fille de la famille où j'étais, qui était la première, qui avait 20 ans, donc venait ou peut-être un petit peu plus, oui, non, elle avait un petit peu plus à ce moment-là. Elle était mariée, et donc son mari, qui venait mon beau-frère, travaillait à Lippe. Et il m'a
D'accord.
dit, pour le moment, ils embauchent. Si tu veux venir, tu peux venir, ils embauchent. Donc je suis allé là-bas, et j'ai été embauché. Voilà.
Donc c'est en
En 1946.
46.
1946. Donc, voilà.
Et ça s'est commencé calmement pour commencer au
Ah
début.
oui, moi j'étais plutôt enthousiaste. Disons que quand on m'a embauché, on m'a dit, écoutez, on connaît bien les jeunes qui sortent de l'école technique, ils ne savent pas travailler. Ils ont des bases, mais ils ne savent pas vraiment travailler. Donc, on m'a proposé de rentrer dans un atelier de perfectionnement qui existait dans l'usine. Il fallait passer un peu plus d'un an dans cet atelier avant d'être affecté dans les ateliers. Voilà.
D'accord.
Donc j'ai accepté de faire un peu plus d'un an de perfectionnement. Voilà. Et c'était très bien. Le patron, je ne le connaissais pas, mais il avait donné des instructions pour qu'on ait un petit terrain de jeu qui n'était pas très loin de l'usine pour le sport. Bon, il y avait même un filet de volley, enfin bon. Et puis il avait ordonné aussi qu'on ait un certain nombre d'heures de sport dans la semaine. On allait soit à la piscine, soit sur le stade. Enfin bon, il y avait à la fois le travail et à la fois le souci d'une vie un peu sportive. Il avait même été jusqu'à nous payer une semaine de vacances en montagne.
Ah bon, c'est pas
Ouais,
mal.
c'était vraiment. Moi, j'ai découvert la montagne, je ne connaissais pas du tout ce que c'était,
Ah bon?
et j'ai été enthousiasmé. Bon, voilà. C'était une semaine dans les Alpes, c'était très très bien.
Ouais,
Voilà.
super. Et vous avez commencé comme OS ou
Alors, moi, j'ai commencé comme OP1. Donc,
OP1?
quand on
Oui.
sortait de l'école avec les brevets, etc., on avait le titre d'ouvrier professionnel premier échelon.
D'accord.
Voilà. C'était ça.
Et dans la mécanique, qu'est-ce que vous faisiez exactement?
Alors là, à Lippe, parce qu'on avait des bases de mécanique générale,
Oui.
et à Lippe, on nous a perfectionné sur la mécanique de précision, de petits volumes, donc des pièces précises, usinées, donc que ce soit sur les machines classiques, tours, fraiseuses, et terminé par de la rectification ou de l'ajustage, etc. On apprenait à faire des pièces qui s'emboîtaient pour préfigurant les outils qu'on allait faire dans les ateliers.
D'accord,
Voilà.
d'accord.
On se mettait un peu dans le coup de cette façon de travailler, voilà,
Et
dans
le
l'usine.
patron, Fred Lip, on dit qu'il était un peu spécial.
Ben oui, mais alors là. Quand je suis arrivé, j'ai pas. D'abord, on n'avait aucun contact avec le patron. On entendait parler de lui, oui, on entendait dire des choses. Mais enfin, nous, quand je dis nous, c'est les jeunes qui étaient dans cet atelier.
Oui.
La seule chose qu'on a eu d'écho sur lui, c'est qu'il avait donné des instructions pour qu'on soit traité de cette façon-là, quoi.
Ouais.
Donc c'est tout. Donc on était plutôt, moi je me rappelle, moi puis d'autres, on était plutôt confiants dans l'employeur, et on trouvait que c'était... Et c'était vrai que c'était une usine moderne pour l'époque, qui était dans la pointe, au niveau travail.
Ouais.
Tous ceux qui étaient là-dedans le disaient tous. Là, vraiment, on apprend à travailler et on a un travail intéressant.
Voilà.
Voilà. Donc, c'était ça.
Mais à un certain moment, il y a eu des conflits.
Alors, oui. Alors, donc tout s'est bien passé. Et moi, je me rappelle, mon beau-frère m'avait dit, est-ce que tu veux te syndiquer? Bon, j'avais dit oui, parce que lui y était, mais c'était pas vraiment par conviction. Il m'avait dit lui, il était syndiqué. Il avait même été permanent de la CFTC à un moment.
D'accord.
Donc, moi, je me suis syndiqué, mais sans conviction du tout. Et...
Ça s'appelait toujours la CFTC?
Ça s'appelait la CFTC à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu la CFDT. Et il y en a une partie qui est restée CFTC et une partie qui est devenue CFDT.
Ouais, hein,
voilà.
Ouais.
Donc, là, c'était à l'époque, la CFDT n'existait pas, c'était la CFTC.
Ouais.
Donc, voilà, moi, je... Et j'ai découvert la première fois, c'est quand je suis allé soldat. Donc j'ai fait mon année, un petit peu plus d'une année de soldat. Puis quand je suis rentré, justement, l'entreprise était en... Bon, enfin, on ne veut pas parler de crise, mais elle était en... Comment ? Il y avait arrêt de l'expansion.
Ouais, d'accord.
Il n'embauchait plus. Alors on arrive... Bon, ben, d'accord, ils n'embauchent plus, mais nous, on était déjà embauchés. Et le chef du personnel nous reçoit, on était 7-8, et il nous dit, on ne peut pas vous reprendre. Enfin, il dit, attendez, on était embauchés. Oui, mais je vous rappelle, et il a sorti un texte en nous disant, je vous rappelle que le service militaire obligatoire est une rupture de contrat de travail. C'était comme ça à l'époque.
On était en quelle année ?
On était en 1949.
Oh, d'accord, déjà,
ouais. Et là donc, oui, parce qu'il y a eu l'atelier école, on a commencé à travailler un peu dans les ateliers, et je suis parti soldat.
Oui.
Donc là, il nous a expliqué, ce que je ne connaissais pas du tout, que c'était toute une rupture de contrat de travail, et qu'il n'y avait nulle obligation pour l'employeur de reprendre. Ah bon, alors, moi j'étais resté complètement abasourdi, sans rien dire. Et puis il y en a un jeune, dans le groupe, qui a pris la parole, puis qui a dit, je comprends pas, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour nous former dans cet atelier de perfectionnement. Et aujourd'hui, vous nous dites que vous voulez plus de nous. Vous perdez votre travail de formation. Ouais. J'étais estomaqué de voir cet argument, cette façon qu'il a eu de répondre, alors que moi j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et le chef du personnel a maintenu, mais il a dit, écoutez, je vais réfléchir et je vous écrirai. Et comment, 15 jours après, 10 jours après, on a reçu une lettre en nous disant que après réflexion, il nous reprenait. Voilà. Alors, c'est pas forcément la personne qui est intervenue. Peut-être qu'il y a eu des changements de programme, toujours est-il, qui nous ont repris.
Ouais.
Mais quand même, ça m'a laissé des traces dans la tête.
Ouais.
Parce que je pensais pas qu'il y avait des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est la première confrontation. Et puis, une deuxième confrontation, peut-être une année après, il y a donc le responsable de la mécanique qui vient nous voir en nous disant, on faisait beaucoup d'heures à l'époque, c'était fou, on arrivait à faire 70 heures dans la semaine.
Ouais.
Ah oui, il y avait des restrictions d'électricité, donc il fallait chaque la ville était divisée en morceaux, on allait travailler très tôt le matin ou très tard le soir pour partager un peu l'électricité, quoi. Et donc, il y avait beaucoup d'heures de travail, notamment à la mécanique, où on attendait toujours sur des outillages. Et à un moment donné, alors quand je dis 70 heures, c'était pas tout le temps, mais souvent, il y avait, en tout cas, on faisait plus de 60 heures.
Ouais.
Et à un moment donné, le chef du personnel, le chef de la mécanique nous a dit, écoutez, comment, il y a un problème de rentabilité, on ne peut plus, on ne peut plus payer les heures supplémentaires. Donc, si vous voulez en faire, donc au-dessus de 48 heures, vous pouvez continuer d'en faire, on est d'ailleurs intéressé, mais on ne paye plus les suppléments, les heures supplémentaires qui étaient payées.
Ouais.
Voilà. Ah, ben, moi, je me rappelle aussi que j'étais plutôt dans ceux qui disaient, ben, tant pis, on va y aller, on va faire des heures, puisqu'ils nous demandent de les faire, et puis ils peuvent plus les payer. Et puis, il y en a d'autres qui ont réagi très fort en disant, enfin, c'est incroyable, toute la lutte qu'il y a eu pour, par rapport à la fatigue, payer les heures supplémentaires depuis 1936, et brusquement, on laisserait tomber tout ça. D'ailleurs, c'était pas légal, je sais pas comment ils auraient fait, mais bon, ils travaillaient dans l'illégalité. Et finalement, à l'intérieur des ateliers, il y a une majorité qui s'est prononcée pour dire non, on n'accepte pas ça. Donc, ben, moi, je sais que j'étais dans le camp de ceux qui auraient bien voulu accepter. Donc, c'était, mais les arguments qui ont été développés m'ont ébranlé en me disant, ben oui, je pensais pas non plus qu'il y avait eu tout ça, tout ce qui était. Voilà, donc ça a été le deuxième événement dans ma vie de professionnel. Et puis, un troisième, un petit peu plus tard, tout d'un coup, il y a suppression d'une prime. Parce que le salaire était constitué de beaucoup de primes. Il y avait bien sûr un salaire de base, mais s'ajoutaient à ce salaire de base plusieurs primes.
D'accord.
Et donc, ils en suppriment une. Et cette prime, elle représentait un morceau pour nous.
Ouais.
Par contre, les anciens, ils avaient un salaire de base. Les professionnels hautement qualifiés, ils avaient un salaire de base très très fort. Et
ouais.
Eux, la prime, c'était quelque chose, mais pas aussi important que pour nous. Et ils ont rien dit. Et nous, on a réagi. Alors là, moi, j'ai réagi avec. On a dit, on n'accepte pas ça. Et comme il n'y avait pas de réponse, on s'est arrêté de travailler. Et on est resté près de nos machines, sans bouger.
C'était vous et plutôt les jeunes.
Oui, on était une 12, une bonne douzaine, peut-être un peu plus.
En quelle année?
Alors ça, c'était en 1950 ou 51. Ça, je me souviens pas exactement.
Non,
et là, on a bien réfléchi, on a dit non, ça presse, il y a plein d'outillages qui pressent, il y a de l'abus, on comprend pas pourquoi on nous la supprime, on maintient notre position. Et là, j'ai participé avec un autre à dynamiser le groupe. On était deux à dire il faut faire des efforts là-dessus. Et finalement, le directeur de la mécanique a demandé à ce que une personne vienne le voir. Et finalement, on a été propulsés les deux, là, le collègue et puis moi. On nous a dit allez-y, puisque vous avez bien. Et on a défendu le morceau. C'était pas vraiment notre explication qui a fait changer les choses, tout simplement que ça pressait beaucoup, il y avait beaucoup d'outillages qui pressaient, et 13-14 personnes qui arrêtent le travail, ça faisait un morceau, un poids dans la balance. Et là, il nous a dit qu'il revenait en arrière et il redonnait la prime. Donc voilà, on a été satisfait. Et à ce moment-là, c'était un mois après, il est venu le responsable syndical de la CFTC à LIP, qui est venu me trouver en me disant, ben voilà, j'ai appris ce qui s'est passé, comment, finalement, dans la mécanique, parce que c'était, nous on était 13-14 dans l'atelier, mais il y en avait d'autres, des jeunes aussi qui étaient dans les autres ateliers,
oui.
Il n'y avait pas qu'un seul atelier de mécanique, et eux aussi ont bénéficié du retour de la prime. Et là, il m'a dit, bon, ben, est-ce que tu veux te présenter comme délégué du personnel? Parce que c'était tous les ans, il y avait une élection.
Oui.
Alors moi, j'ai dit tout de suite, non, pas question, je veux faire une carrière professionnelle. Je sais que si je me mets là-dedans, ça sera foutu pour ma carrière. Non, je veux pas. Alors il m'a dit, bon, ben, au moins, tu pourrais accepter de nous aider. Il y a ton beau-frère qui est quand même avec nous, CFTC. Tu pourrais au moins, on te mettrait tout au bas de la liste.
Oui.
Comme ça, tu risques pas d'être élu. Et puis, voilà, au moins, tu nous auras aidés. Finalement, j'ai dit oui. Et en fait, je savais pas du tout qu'on avait le droit, dans ce genre d'élection, de barrer des noms. Et il y a eu des bas, il y a eu des noms barrés, et moi je me suis retrouvé, j'étais moins barré que les autres.
D'accord.
Alors j'étais vraiment pas content, je l'ai déjà réexpliqué, il y en a qui me croient pas, mais c'est vrai, j'étais pas content. Je pensais que ça allait casser mon truc, parce que moi mon rêve c'était de devenir hautement qualifié dans les professionnels, voilà, c'était tout.
Et de devenir patron vous-même, ce
soir? Ah non, 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 je pensais pas du tout à ça, je pensais à devenir, parce que j'admirais beaucoup, beaucoup les hautement qualifiés. Ils étaient vraiment, ils avaient un coup de main, une capacité de travail, de précision et tout. Alors je me dis, si jamais un jour j'arrivais comme eux, je serais vraiment fier de moi, enfin bon. Et là, bon, et vous, avant de dire vous m'embêtez, je démissionne, je sais pas quoi, je suis allé voir à la réunion, la première réunion. Donc ça va?
Oui, ça va.
Allé donc voir et je me suis retrouvé avec, il y avait deux ou trois CGT jeunes et élus, et puis deux ou trois CFTC élus aussi. Il y avait un renouvellement de quelques jeunes.
Oui.
Et là on a fait nos premières armes, on a écouté ce qui se racontait, et c'était plutôt un bureau des pleurs. Hein. C'était ceux qui venaient là, c'était pour se plaindre de tout ce qui allait pas dans les ateliers, mais en disant qu'on ne pouvait rien faire. Il y avait dans les grèves à l'époque, nationales ou régionales, il sortait 50 personnes sur 1000 à l'IP. Il y en a 50 qui sortaient, c'est tout. Le patron avait vraiment réussi à faire avec la distribution de logements, c'est lui qui détenait les logements, les primes, les embauches des enfants de la famille, il y avait le charbon, la femme, tout était bien compris là-dedans pour que les gens soient tributaires du patron. Il n'avait pas trop envie de... Tous les vendredis soirs, tous les deux vendredis, ils prenaient la parole. Tous les ateliers et bureaux étaient munis de haut-parleurs.
Ouais.
Et ils parlaient le vendredi soir de temps en temps pour donner des explications sur les primes, sur les salaires, sur la progression de l'entreprise, etc.
Ouais.
Il avait un journal. Qui était distribué à tout le monde, qui donnait aussi plein des informations, même des informations qu'on ne trouvait pas dans les autres journaux, sur la vie aux États-Unis ou dans l'Europe, parce qu'il voyageait pas mal.
Ça s'appelle comment ce journal ?
Horizon Nouveau.
Oui.
Horizon Nouveau. Donc, de même qu'il avait une grande ardoise devant le gardiennage, et là-dedans, il y avait les résultats sportifs. Ils écrivaient à la craie. Le gardien était chargé d'écrire les résultats sportifs. Enfin, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que l'entreprise était assez tributaire de ce patron. De ce patron et de tous ses cadres qui étaient là. Donc, voilà un petit peu comment c'est là que je me suis rendu compte plus précisément de tout ça. Là, en entendant, en écoutant tout ce qui se passait. Et comme on avait le droit de circuler dans l'usine sous certaines conditions, moi j'ai commencé moi aussi à aller voir une personne aux ébauches, une autre personne qui avait demandé à avoir un délégué.
Ouais.
Et là j'ai vu l'usine, on n'avait jamais visité l'usine, jamais. On était cantonné dans notre atelier, point. On n'avait pas le droit d'en sortir. On pouvait aller jusqu'à l'atelier de presse pour essayer un outil, pour voir s'il fonctionnait bien, etc. Mais chacun devait rester dans son atelier. Interdiction de se retrouver dans un couloir ou dans un bureau, hein, ou dans un autre atelier qui n'était pas le sien.
D'accord.
Et là, moi, je me suis rendu compte de ce que c'était que l'usine. On était des privilégiés à l'outillage mécanique parce qu'on avait la possibilité de circuler dans l'atelier par le travail. On utilisait une machine à cet endroit-là, après on allait dans un autre endroit pour utiliser une autre machine. Donc on pouvait parler, bien sûr sans exagération, mais on pouvait dire quelques mots aux collègues, tout ça. Tandis que quand je suis rentré aux ébauches, à la fabrique, où c'était tous des femmes sur les machines, debout, sur des machines pour fabriquer les pièces, avec les projections d'huile, avec comment le fracas, le boucan qu'il y avait là-dedans, ouais. Le bruit, et puis les régleurs qui criaient par rapport à telle mauvaise position de pièce, et puis tout ça, là je me suis rendu compte que je voyais l'usine à travers mon prisme à moi, ouais. Qui n'était pas trop mauvais. Mais ailleurs, c'était pas pareil. Je me disais, c'est les OS, ça, c'est vraiment les ouvriers qui n'ont pas de connaissances professionnelles. Ouais. Mais les professionnels de l'horlogerie, ça doit être autre chose. Ouais. Et quand je suis allé là-bas, c'était pareil. Ah, c'était pas du tout la mécanique. Tous les professionnels étaient en ligne, sur chacun son petit établi, l'un derrière l'autre. Et puis l'estrade était tout derrière, dans leur dos, avec le chef qui surveillait. Toute la lignée des professionnels qui travaillaient. Et c'était un silence total dans ces ateliers. Et quand je suis venu voir le chef, là, qui était sur son estrade, pour lui parler d'une prime. Parce qu'on m'avait dit, t'es un peu spécialiste dans les primes, va voir un petit peu quand il y a des gens qui sont étonnés puis qui comprennent pas une histoire de prime. Alors donc j'étais allé le voir pour ça, pour lui demander des informations sur la prime de l'horlogerie, et il m'écoutait pas du tout. Il m'écoutait pas, il était là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il était là, qui regardait, et à un moment donné, il s'est levé, sans s'occuper de moi, il a fait le tour de l'atelier, il est revenu, ah, il me dit, j'ai cru entendre un murmure. Il entendait comme un espèce de fond, de bruit de voix. Bon, je l'avais même pas entendu, parce que je savais pas du tout. Et c'était insupportable pour lui. Insupportable d'entendre un espèce de fond, de bruit de fond là-bas dans, probablement qu'une ou deux personnes devaient causer un peu, à voix basse. Et alors il s'est occupé de moi pour me donner des informations sur la prime, etc. Donc ce tour d'usine m'a montré que l'usine c'était pas ce que je croyais. Ouais, c'était pas du tout ce que je croyais. Ouais. Voilà. Et à partir de là, il y a eu une réunion mensuelle de délégués du personnel avec la direction. Et là, ça a été lamentable. On s'est fait ridiculiser sur nos questions, sur nos demandes. On les avait mal préparées. Le chef du personnel était très bien dans le coup. Il nous a un peu montré que c'était vraiment zéro nos revendications, etc. Et à un moment donné, c'est peut-être pas la première réunion, mais peut-être la deuxième, voilà que Fred Lippe débarque dans la réunion. Avec une furie, en colère, il y avait eu un tract de distribué par la CGT qui accusait au niveau des salaires, je me souviens plus exactement les termes qui étaient utilisés dans le tract, oui. Mais ça l'avait mis dans une colère noire. Il est arrivé, on l'avait aperçu une ou deux fois de temps en temps, on ne le voyait jamais, et là j'ai vu quelqu'un qui était en colère, qui ne se contrôlait pas, qui hurlait et qui s'en est pris à la déléguée principale de la CGT, en la traitant de tous les noms, mais vraiment, c'était affreux, affreux. Et on était complètement écroulés à notre place, sans oser dire un mot, vraiment, terrorisés par rapport à ça. Et puis il est parti en claquant la porte. Et la réunion a repris, mais on n'arrivait même plus à parler après, d'accord. Après une démonstration comme ça. Et là, on a vu, un, qu'on était ridicule, deux, que le patron était nous méprisait, dans le sens que pour lui, on était des rien du tout. Et puis, la vision de cette entreprise qui n'était pas ce que je croyais. Et là, on me rappelle, on a essayé de parler on avait des heures, oui. Où on pouvait se voir. On a essayé de parler en disant, écoutez, on abandonne. Ou bien on abandonne. Ou bien on fait ça sérieusement, on est quoi là-dedans? Et il y a plusieurs jeunes qui ont tenu ce langage-là. Ils disent, oui, c'est vrai, on va pas continuer comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait quelque chose d'abord? Et là, oui, il y a eu une décision en disant, il faut essayer de faire quelque chose. Si on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Tant qu'il n'y aura pas les gens de l'IP qui seront mobilisés, et que ce soit bien leur revendication, eh bien, c'est même pas la peine de continuer à avoir la direction. Alors là, on a commencé à réfléchir, et il y a eu, alors, Il y en a un qui a lancé une idée parce qu'elle avait été reprise à la mécanique.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'était que cette idée? Eh bien, quand on est arrivé dans les ateliers, tous les jeunes de l'atelier de perfectionnement, quand on est arrivé dans les ateliers, oh surprise, il n'était pas question de demander des renseignements aux professionnels, aux hautement qualifiés.
Ah bon?
Ils nous envoyaient promener. Et on essayait d'aller voir comment ils faisaient pour réussir une pièce. Et quand on approchait d'eux, ils nous demandaient de nous en aller, ou même ils mettaient un grand linge blanc sur leur place, pas qu'on voit. Et là, on avait été, parce qu'on n'avait pas cet état d'esprit.
Ouais.
On a compris plus tard qu'ils défendaient leur bout de gras, leur salaire.
Ouais,
parce que nous étions une concurrence.
D'accord.
Et ils avaient une telle aura que sur la place, ils pouvaient se déplacer d'une usine à l'autre. Il y avait une surenchère entre les patrons pour avoir ces hautement qualifiés qui étaient quand même assez rares à l'époque.
Ouais, ouais.
Et donc, ils voyaient en nous une concurrence. Et là, on avait dit, on n'y arrivera jamais, c'est tellement difficile. Et il y a tellement de choses à apprendre qu'on n'y arrivera jamais. Et il y en a un qui a dit, moi je suggère qu'on écrive chacun sur un petit carnet toutes les difficultés qu'on a, pourquoi on a échoué et puis pourquoi on a réussi.
D'accord.
Et on se passe nos carnets toutes les semaines, de façon à ce que ça circule.
D'accord.
Et il a même ajouté en disant, logiquement, on devrait aller 8 ou 10 fois plus vite, au moins, tous ensemble, que un tout seul.
Voilà.
Et on a repris cette idée-là. C'est pas moi qui avais eu cette idée-là. Mais on l'a repris en disant, il faut qu'on prenne un carnet, comme on avait l'habitude de faire à la mécanique,
ouais,
et qu'on aille partout où les salariés, quand il y a la pause, les salariés ont l'habitude de se réunir par groupe, dans les couloirs, dehors,
ouais,
etc. Et on est tous chargés d'aller dans ces groupes-là, à écouter seulement. On n'a rien à dire, mais on écoute. Et on note sur les... Ils parlent de la pluie, du beau temps, de ce qu'ils vont faire le dimanche, mais ils parlent aussi de ce qui se passe dans leur atelier, dans leur bureau. Et ils disent un peu ce qui ne va pas, etc. Notons tout ça.
Ouais.
Et reprenons tout ça ensemble, dans le local syndical, et essayons de construire des tracts concrets,
ouais,
qui correspondent à ce que les gens vivent,
d'accord,
et ce qu'ils disent. Voilà, ça a,
d'accord,
été le début d'une fabrication.
Ouais.
De, voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé.
Et est-ce que vous avez, essayé de d'augmenter la participation au syndicat des travailleurs ou...
Pas vraiment. Il y avait peu de syndiqués. On a dit, il faut que... Il y avait un individualisme extraordinaire.
Ouais.
Si on veut que les gens croient au collectif, il faut qu'ils aient des preuves. Il faut qu'ils aient des preuves. Mais comme ça, il n'y a pas de preuves. Alors il y avait quelques adhérents quand même. Et là, on a dit, on est incapable de faire croire au collectif, qu'il y ait une crédibilité du collectif.
Ouais.
On en est incapable. On est incapable de faire grève. On est incapable de se manifester.
Ouais.
Donc, la première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est maintenant qu'on connaît tout ce qui se passe dans les ateliers, etc., les bureaux, il faudrait qu'on essaye de se faire aider par la loi. Est-ce qu'il y a des choses que Fred Lip ne respecte pas? En général, il y en a toujours.
Ouais.
Et on s'est mis à éplucher, à regarder. Les feuilles de paye étaient d'une complexité incroyable. La plupart des gens ne comprenaient pas la feuille de paye. Il y avait une tartine de primes, de ceci, de cela. Et on est allé se former à l'union locale, CFTC.
Ouais.
Et on a fini par découvrir quelque chose en examinant toutes ces feuilles de paye. Le Fred Lip ne payait pas les heures supplémentaires légalement. Il n'incluait pas... Mais il n'était pas le seul,
ouais,
dans bien d'autres entreprises.
Ouais,
il n'incluait pas les primes de production dans le calcul des heures supplémentaires.
Quand,
alors, on a dit, on va bien, il faut que ce soit sûr. On avait dit, toute information doit être vérifiée, contrôlée. Donc on a vérifié. Oui, on en est bien sûr. On est allé voir au niveau des, à l'union locale, les arrêts de cour de cassation, la justice, comment elle avait tranché. Et quand on a été sûr de nous, on a distribué un tract en exigeant un an de rappel. sur tout. Et là, enfin, bon, je me rappelle, il y a plein de gens se moquaient de nous, en disant, oh là là, vous attaquez à Fred Lim, vous rigolez, et tout ça. Et finalement, devant la direction départementale du travail, devant les arrêts de cour de justice,
oui.
Fred Lim a été obligé de s'incliner parce que, effectivement, tout était vrai. Et là, ça a été un coup de tonnerre dans l'usine, parce que, c'était pas le collectif qui avait fait plier l'IP, mais c'était un travail collectif des délégués, syndicales, etc. Et là, les gens étaient absolument étonnés que Fred Lip s'incline, et tout le monde a reçu un rappel assez important de Fred. Et donc, ça a été le premier coup de tonnerre. Le deuxième, on a essayé de réfléchir, et il y en a un qui avait trouvé l'idée. Il y avait le secret des salaires. C'était donc les salaires, chacun cachait sa paye, sa feuille de paye, persuadé qu'il était plus payé que les autres. On lui avait fait comprendre que c'était... Et nous, on a distribué, sous forme de tract, un certain nombre de feuilles de paye que des mécaniciens avaient accepté de nous donner en rayant les noms, etc. On a distribué ça. Ça a été un raz-de-marée.
Ah, oui.
Parce que les gens qui étaient... C'est un raz-de-marée individuel, pas du tout collectif.
D'accord.
Ils étaient tellement imprégnés de l'idée qu'ils étaient favorisés. Et quand ils ont vu, ils disent, mais comment ? Ils sont allés voir le chef. Mais tu m'avais dit que j'étais bien noté, bien payé. Regarde, il y a des autres Européens qui ont nettement plus que moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les OP2, les OP3, pareil. Et là, il y a eu un tel remue-ménage dans l'entreprise que la direction a été contrainte de commencer à donner quelques règles dans les salaires en disant, ben voilà les mini et puis voilà les maxi. Ils ont commencé à donner des mini et des maxi.
D'accord.
Et petit à petit, on a réussi à faire la première grille de salaire qu'on a distribuée à tout le monde. Voilà, la première. Vous entrez chez lui, vous avez telle catégorie.
D'accord.
Vous devez vous situer là-dedans, entre ça et ça. Vous êtes à l'horlogerie, vous êtes... Et ça a été quelque chose qui a contribué beaucoup à la crédibilité du collectif.
D'accord.
Voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu les salaires, après qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés, et progressivement, on a commencé à avoir des syndiqués, et on a commencé à avoir une force, mais on a mis longtemps. On est arrivé au milieu des années 60, 65, à avoir une force suffisante pour commencer à faire un débrayage, une grève sur un problème...
D'accord.
Important. Voilà. Mais il a fallu attendre tout ça.
D'accord.
Il a fallu des années pour construire. Voilà. C'est ce qu'on explique des fois, on a construit ça, mais on a mis longtemps. Et on avait une entente complète entre la CGT et la CFTC.
D'accord.
Un coup, le chef du personnel est venu nous voir, la CFTC, en nous disant « Nous sommes chrétiens, vous aussi ». Nous allons nous entendre sur les accords de salaire, mais on ne veut pas traiter avec la CGT. Ah ben, on avait dit non. Il avait été complètement surpris. Ah ben, on ne travaille pas de cette façon-là. Et tout de suite, on a été le dire à la CGT. On a dit voilà, on vient de voir le chef du personnel et voilà ce qu'il vient de nous dire.
Ouais.
Et il y a eu une confiance entre le sein. On était une des rares entreprises à Besançon où il y avait cette confiance-là. Au point que les réunions de préparation de délégués du personnel, etc., on les faisait ensemble.
D'accord.
Les réunions de réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire, on les faisait ensemble. Et ça, c'était très nouveau. Dans Besançon, c'était nouveau.
Et quand le syndicat a changé de nom?
Alors, en 64, il a changé de nom. On est passé tous à la CFDT. Donc, à l'IP. Il y en a d'autres qui sont restés à la CFDT.
D'accord.
Mais à l'IP, on est passé à la CFDT. Voilà.
Et pour avancer un peu, comment vous avez vécu... 68 à
Lille. Oui, alors là, ça a été... Il faut dire aussi que dans l'usine, on avait notre travail.
Ouais.
Et le travail exigeait beaucoup de choses. Donc, on avait des heures de délégués.
Ouais.
On avait des heures syndicales, mais on ne les prenait pas tous. On n'en prenait qu'une partie. Et on s'obligeait à se voir le soir.
D'accord.
Après le boulot.
Ouais. D'accord.
Et là, on passait de... Il y en a qui venaient ici, on allait des fois chez Roland Vito ou chez un autre, et on y passait toute la soirée jusqu'à minuit. D'accord. Entre 20h30 et minuit, pour réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'esprit collectif, ouais. pour améliorer la démocratie.
Voilà. Ouais.
Et donc, on était fin prêt quand est arrivé 68. On avait vraiment mis en place plein de choses, et il y a eu une lutte spécifique à l'IP. À l'IP.
Ouais.
Partout ailleurs, il y avait des piquets de grève, hein, qui, comment, pour démarrer la grève, il y avait des piquets de grève, etc. Et nous, non. On a demandé au piquet de grève qui est arrivé de s'en aller tout de suite, CGT, CFDT, en disant, nous, au contraire, on distribue un tract pour rentrer. Donc, il n'est pas question de sortir, il est question de rentrer. Vous êtes complètement malade, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas rentrer dans la lutte? Si, mais pas de cette façon-là. Et tout le monde était convoqué au restaurant à 8h du matin pour réfléchir. Et on a fait vraiment un travail démocratique très important.
Oui.
Avec micro-baladeurs, etc. Et à un moment donné, on a dit, avant de voter, il faut que chacun réfléchisse comme il faut, en groupe, par ses affinités. Et donc, on a arrêté l'Assemblée Générale pendant 3 quarts d'heure. Et tout le monde s'est réparti un peu partout, dehors et à l'intérieur du resto, par petits groupes, réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et comment? Et pourquoi? Et sur quelle base? Et quand ils sont revenus, on a fait le vote en demandant à respecter ceux qui s'abstiendraient, ceux qui voteraient contre, ceux qui voteraient oui. Voilà. Et donc, ça a été là une des premières façons de travailler collectivement en grève démocratiquement. Et là, il y a eu immédiatement des cahiers de doléances. Les gens se sont mis à dire, dans notre bureau, voilà ce qui va et voilà ce qui va pas. Donc, il y a eu tous des cahiers de doléances un peu partout. Et puis, le comité de grève, syndiqué ou pas, voilà, on s'en fout. Chaque secteur est désigné ou élit son représentant. Peu importe ce qu'il est. S'il est de la CFDT ou de la CGT ou qu'il a rien du tout. Voilà, donc voilà comment ça a commencé, et on a eu un 68 très, très important à l'usine. La direction, on a passé un accord avec elle restait dans l'usine. On leur a simplement demandé de ne pas agir ouvertement contre la grève,
oui.
et autrement ils pouvaient. Et on les a prévenus qu'on utiliserait un peu le matériel, que ce soit la photocopieuse, que ce soit des machines à écrire, etc. Voilà comment ça s'est passé.
La grève a duré combien de temps?
Alors nous, elle n'a duré que 2 semaines, ouais. alors qu'ailleurs, elle a duré beaucoup. Mais à la fin de la première semaine, on avait un accord avec Fred Lip. On avait signé un accord qui nous paraissait correct. Mais on a dit, on ne reprend pas le travail. On attend que au niveau du pays,
ouais.
reprenne le travail. Et donc la majorité du pays a repris le travail, donc la semaine suivante. Et il y a eu des queues de conflit terribles, comme à Peugeot, comme ailleurs. Il y a eu des queues de conflit où ça a duré encore 2 semaines. Mais c'était, il y avait les accords de Grenelle national. On a donc estimé que on avait obtenu satisfaction.
D'accord.
Nationalement et à l'île.
Donc
d'autres usines ont eu encore 1, 2 semaines, 3 semaines de conflit derrière.
Ouais.
Voilà comment ça s'est passé. Et on a fait un saut qualitatif au niveau démocratie et collectif, et de la collectivité. Là, on a fait vraiment un saut. Par contre, le vote a été contre la présence étrangère, étudiants.
Ah ouais,
voilà. Il y a eu un vote, et là, c'est la CGT qui l'a emporté largement.
Il n'y avait pas de contact avec les étudiants?
Si, mais dehors.
Dehors.
Mais ils n'ont pas voulu qu'ils rentrent. Et donc, on s'est incliné. Donc, c'était pas un mur encore à l'époque pour qu'ils rentrent. On a eu des contacts, on a essayé de discuter avec eux, tout ça, mais voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé.
Donc quand plus tard est venue la question des licenciements, vous étiez déjà bien organisé.
Ah oui. Et il y avait eu un autre combat. En 1970, oui. Fred Lip a compris que la force syndicale était devenue très grande.
Oui.
Et ils ont réfléchi. Comment on peut la battre, cette force syndicale? Et ils avaient trouvé quelque chose d'assez solide. Ils avaient imaginé une restructuration
ouais.
dans l'entreprise dans laquelle disparaissait l'atelier où était né le grand atelier d'outillage, oui, oui, où était né un peu le syndicalisme, les militants comme Roland Vito, Picard, Cugnet, moi et d'autres. Et donc c'était assez astucieux, mais il avait pas fait attention que la force maintenant elle était tellement importante que tout avait changé. Toute l'usine s'est élevée contre, oui, cette disposition, mais sans faire grève. Tout avec une espèce de désobéissance civique.
Ouais.
Et donc, ça a été tellement fort dans cette lutte interne que Ebochessa, qui avait déjà la majorité des actions, a demandé à Libre de s'en aller. Ouais. Et puis, ils ont mis un homme à eux. Voilà. Donc, ça montrait aussi. Là, il n'y avait pas eu de grève. Il y a eu quelques petits moments de grève, mais très peu. Mais pendant des mois, ça a été un affrontement de la totalité.
D'accord.
Que ce soit les bureaux, que ce soit partout, c'était vraiment très solide.
Ouais, d'accord.
Voilà, d'accord. Voilà un peu ce qu'il y a eu.
Alors, pour arriver au grand conflit,
voilà.
Alors, ce qui me frappe, c'est que, enfin, on dit souvent que les libres sont une aristocratie ouvrière.
Oui, ça, ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils
disent.
Et
qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, il y a eu un tract, il y a eu des tracts de la, des, comment, des maoïstes, notamment, de l'extrême gauche, qui effectivement reprenait cette idée en disant c'est pas avec Libre qu'on fera quelque chose dans Besançon, mais heureusement il y a d'autres usines, là c'est une espèce d'aristocratie qui ne sortira jamais rien. Et ensuite, pendant le conflit de 73, ils ont redistribué un tract pour s'excuser en disant on s'était trompé, effectivement c'est pas une aristocratie, etc. Ouais. Donc voilà un peu comment, donc oui, on avait une espèce de, je sais pas. Pourquoi? Parce que c'était l'horlogerie qui voulait ça. Les gens étaient bien habillés, les horlogers étaient bien. Nous, les mécanos, on était un peu embêtés parce que Frédéric voulait nous obliger à mettre une blouse blanche. On l'a dit, écoutez, c'est pas possible, vous n'avez pas un peu, il faut la changer tous les jours. On peut même pas la garder, même une journée, elle va être. Alors finalement, il avait accepté des blouses bleues. Donc, mais tout le monde essayait d'avoir quelque chose de plus au point de vue propreté,
ouais,
que la moyenne.
Ouais.
Que la moyenne. Ouais. C'est alors, dans tout, partout. Freddy, d'ailleurs, il avait des idées, des fois, qui étaient vraiment bien. On avait cru que c'était complètement farfelu, il était revenu des États-Unis en disant, c'est pas gay, les ateliers de mécanique, tout ça, c'est sombre, c'est moche. Il faut peindre les machines en deux couleurs. Une couleur très claire pour le bas, puis une couleur un peu plus voyante, mais différente pour. Oh, je suis encore une de ces lubies. Mais quand il a fait ça, c'était vraiment tout changé.
Ah bon?
Ah, il avait raison. Ah bon? L'atelier était tout changé. Ça donnait une note tout à fait différente de la grisaille des ateliers.
D'accord.
Bon, voilà. Donc, il pouvait se le permettre parce que c'était de l'horlogerie. Il n'y avait quand même pas des quantités de copeaux, etc. C'était plutôt du travail de précision. Mais c'était, nous, on a cru que c'était encore une farfelue. En fait, non, c'était pas mal comme idée. Donc voilà, ça c'était un peu,
ouais,
l'aristocratie, entre guillemets. Hein, entre guillemets, voilà.
Oui, mais en plus, vous étiez bien organisé.
Ah oui, ça. On avait fait un plan de l'usine. On s'était attaché, on n'a pas pu trouver les plans de l'usine, mais on en avait fabriqué un. Et on l'avait reproduit à plusieurs exemplaires. Et chaque point de l'usine, le travail, l'objectif, c'était d'avoir un correspondant. Dans ce bureau, l'usine était fourmillée d'ateliers, de bureaux. Dans chaque bureau, on voulait avoir quelqu'un. Dans chaque atelier, on voulait avoir au moins quelqu'un qui soit solide et puis qui donne. Voilà. Donc on avait un réseau. On avait construit un réseau. Un réseau solide.
D'accord.
Voilà.
Et le comité de grève faisait partie de ce.
Alors,
c'est
autre chose. Une fois qu'on s'est mis en, on a commencé cette lutte.
Oui.
Oui, une fois qu'on a commencé cette lutte, l'idée qu'on avait développée à la CFDT, c'était de dire, c'est autre chose que 68.
Oui.
On s'accroche, on se bat contre un groupe, ébauché ça, qui a 18 usines. C'est un groupe multinational. Il y a des usines en Allemagne, en France et en Suisse, évidemment. Et donc, comment lutter contre cette entreprise-là? Si chacun ne se met pas en route au niveau de la tête, au niveau des bras, eh bien, on est perdu. On ne voit vraiment pas comment on peut développer un rapport de force suffisant. Et donc l'idée, c'est, on est une quinzaine de délégués CFDT, il y a une quinzaine de délégués CGT. Bon, si on est que ceux-là à penser et à faire des propositions, ça n'ira pas. Il faut que se développe plein d'autres lieux.
Ouais.
On n'avait pas imaginé comité d'action. Non, là, peu importe comment ça s'appellera, mais il faut qu'il y ait des groupes qui se mettent autonomes à réfléchir en dehors de nous et avec nous.
Hein,
et ça, c'est ils ont décidé d'appeler ça comité d'action. Ils ont commencé comme ça. Et c'était bon. C'était l'idée qui était intéressante. Ça s'appelle comité d'action ou n'importe quoi. Qu'il y en ait un, deux, trois ou quatre ou cinq, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Pour eux, qu'il y ait des lieux de réflexion, de proposition et d'action.
Ouais, voilà. D'accord.
Donc c'était ça qui nous importait.
Mais les gens qui
ça, étaient
dans le comité d'action, c'est des gens nouveaux au point de vue militant.
Voilà. Il y en avait quelques-uns, comme Ragnès, tout ça, qui avaient déjà commencé un peu. Ou bien Margé, hein, qui avait déjà commencé un peu, ou Burt. Mais la plupart... Et oui, c'était vrai, ils ne se sentaient pas toujours bien à l'aise avec nous. On avait formé une espèce de groupe, on se voyait le soir, fréquemment, donc on était homogène, assez solide, bien solide sur les informations, sur nos connaissances et tout.
Ouais.
Et il y en a qui ne se sentaient pas bien à l'aise avec. Et j'étais bien content de se retrouver dans des groupes moins homogène, moins formalisé, et ils se sont plus sentis à l'aise et plus dans décontractés là-dedans qu'avec nous. Avec nous, il y avait une espèce de crainte de pas être à la hauteur ou des fois de sortir des choses qui n'étaient pas, voilà. Donc ça, oui, ça a existé. On n'avait pas bien compris qu'on s'isolait progressivement dans notre formation à nous.
D'accord.
En s'auto-formant, on s'isolait petit à petit de la masse.
Hein.
Enfin, bon, une façon de parler, quoi. Donc ça a été excellent. Excellent. Il aurait fallu qu'il y en ait d'autres. Il n'y aurait pas eu qu'un seul comité d'action.
D'accord. Il y a eu des commissions aussi qui étaient importantes.
Alors, on avait compris que l'Assemblée Générale, c'était le lieu où il fallait tous ensemble sentir le conflit, sentir les grandes lignes du conflit, mais que c'était pas la démocratie. Il y a trop de monde, on peut pas. Il y avait quelques-uns qui parlaient, mais non. Par contre, les commissions, où ils étaient plus que 15, 20, c'était plus facile à parler.
D'accord.
Plus facile à s'exprimer. Et donc, les commissions, ils avaient un travail à faire, mais
ouais.
À l'intérieur de ce travail, il y avait quelque chose qui était très important, c'était le débat.
Ouais.
Chaque fois qu'ils sortaient d'une assemblée générale, le débat continuait encore un petit moment.
Ouais.
Pendant qu'ils commençaient à travailler, pendant qu'ils travaillaient, à préparer ceci, à préparer cela. Et ce débat-là, il était plus aussi et peut-être plus important que l'Assemblée Générale. Parce que là, chacun pouvait plus parler.
Ouais.
Et d'autres qui ne parlaient pas nous disaient, oui, mais moi j'apprends plein de choses. J'apprends dans l'Assemblée Générale et j'apprends dans la Commission. Dans ce qui se rediscute dans la Commission, j'apprends. Je ne parle pas beaucoup, mais j'apprends.
Voilà.
Donc c'était D'accord. Et en même temps c'était de la démocratie parce que si il était en opposition avec ce qu'il disait, il aurait pu intervenir.
Ouais,
donc c'était de la démocratie. Voilà.
D'accord. Et Jean Ragnès par exemple, je vois que c'était un prêtre, mais c'était un prêtre ouvrier. Qu'est-ce qu'il faisait?
Non, c'était pas un prêtre ouvrier. C'était un prêtre qui s'occupait des prisonniers. Donc il avait une petite baraque qu'il avait obtenue comme ça. Puis la municipalité avait dû l'aider à un moment donné. Il avait une petite baraque qui était pas loin de la prison.
Ouais.
Et donc les prisonniers qui sortaient, tout ça, pouvaient aller là. Il allait les voir d'abord. Donc c'était son boulot. Ouais. Et pour pouvoir manger, pour pouvoir se débrouiller, il avait pris un boulot à l'IP.
Ouais,
donc il n'était pas prêtre ouvrier, mais il s'est engagé petit à petit. Il est venu en 71 et il a commencé à s'engager dans quelques petits événements qui avaient eu lieu à cette époque-là. Voilà.
Ouais,
et donc il a pris une place importante dans le comité d'action, dans la CFDT.
D'accord. Et vous parlez un peu des maoïstes, il y a beaucoup de gens venaient de l'extérieur pour commenter, pour vous aider,
oui,
pour vous embêter.
Oui.
Même.
Alors ce qu'on disait là, c'était que bien, on avait gagné la bataille interne. Tout le monde commençait, enfin tout, quand on dit tout le monde, c'est un pourcentage, c'est 50%, après c'était peut-être 55%, mais c'était quand même pas mal. Il y avait tout un... Mais on disait, c'est pas encore suffisant, il faut s'ouvrir à l'extérieur, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On connaît des choses, mais il y a plein d'autres qu'on ne connaît pas. Et d'autres pourront nous apporter des choses. Ouais. Et donc il faut s'ouvrir. Et ça, ça n'a pas été facile, il a fallu... Parce que c'est une souffrance, c'était une souffrance pour un hip de voir quelqu'un qui se promenait dans l'usine, au début. Parce que c'est... Oui, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais... Ah oui, mais tu sais, on l'a dit en Assemblée Générale, oui, mais quand même, ils sont trois ou quatre, là, il n'y a personne avec eux. Ben oui, ils peuvent circuler. C'était, ça les embêtait beaucoup. C'était difficile au niveau mental d'accepter que l'entreprise soit envahie. Attention, on avait fermé les ateliers, on avait fermé un certain nombre de choses. Oui. Mais on avait défini toute une zone de libre accès pour tout le monde. Et dans cette zone de libre accès, ça les embêtait de voir... à des moments, ils ne se sentaient plus vraiment des élites où on avait appris à se connaître et on voyait plein de gens qui arrivaient. Alors, ça a été au début. Petit à petit, ils ont mieux saisi, parce que tout ce qui se disait dans les assemblées générales, ils comprenaient que ailleurs, il y avait tout un soutien qui se mettait en place et toute une aide concrète qui se mettait en place. Ouais. Et donc, ils ont mieux compris que, après tout, c'était bien que les gens circulent dans l'usine, même si c'était pas dit.
En tant que, enfin, j'hésite à dire leader, mais en tant que un des leaders de...
Un des animateurs.
Vous aviez affaire à certains militants de haut profil qui sont venus de l'extérieur. Est-ce que vous en avez un souvenir de...
Des autres militants de l'extérieur?
Oui, de l'extérieur. Alors, par exemple, des maoïstes ou des...
Ah oui, ah
des,
ben oui. Bah oui, 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 ça.
Des cahiers de mai, Libération.
Voilà, voilà. Alors là-dessus, moi je suis formel. Je crois que c'est mauvais d'ouvrir l'usine, d'ouvrir la possibilité de débattre avec des salariés si les salariés n'ont pas commencé à former un collectif et à commencer à avoir une certaine expérience et une certaine connaissance. Parce qu'autrement, le discours qui peut arriver peut perturber et puis ne pas être avalé, ne pas être supporté. Ça oui, malgré tous nos efforts, il y a quand même un certain nombre de LIP qui ont un peu succombé à toutes sortes de discours, mais pas beaucoup quand même. C'était supportable. Ouais. C'était supportable. Mais sinon, oui, c'est dangereux, parce que des gens qui n'ont pas encore... C'est comme si un enfant... J'exagère un peu, mais c'est comme si un jeune qui n'a pas encore beaucoup d'expérience de la vie, il y a un gourou qui vienne lui l'entretenir et puis le prendre en charge. Oui. À ce moment-là, il n'a pas encore la capacité d'analyser ce qui est bon dans ce que dit le gourou et ce qui n'est pas bon. Hein. Oui. Voilà, donc ça a été notre souci. Mais on a dit oui, on est assez mûr. On est assez mûr pour ouvrir. Alors bon, il y a eu, dans le deuxième conflit, moi je me rappelle, quand j'étais dans la file d'attente pour aller manger au restaurant, dans notre restaurant, il y avait un petit groupe de filles là derrière, puis il y en a une qui disait, oui, c'est celui-là le traître, là, qui pour le moment parle de coopérative. Alors il m'avait désigné, oui, c'est celui-là, oui, ah, c'est celui-là, Piaget, oui, oui, c'est le traître qui parle de coopérative. Bon, voilà, donc il y avait tout ça, mais on était capable de le supporter et de répliquer. Ouais. Et il y en a qui apportaient des choses qui étaient valables.
Par exemple,
ce qu'on a reproché, nous, à la CEDT, où Jacques Chérec n'était pas toujours bien content de ce qu'on lui disait, quand il nous donnait des informations, d'abord, premièrement, les informations étaient toujours verticales. Il n'était pas question d'avoir des informations, un système d'informations d'entreprise à entreprise ou d'entreprise métaux avec des entreprises de la chimie, etc. Ouais. Donc on avait une information verticale, surtout de haut en bas, bas en haut quand même, mais surtout de haut en bas. Et quand on nous expliquait, on recevait des bulletins, on nous disait à tel endroit il y a eu une lutte, voilà les revendications, voilà ce qu'ils ont obtenu. Ouais. On disait à la fédération, mais c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut savoir comment le combat s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont gagné, de quelle manière, etc. C'est ça qui nous importe.
Ouais.
Jamais on avait ce genre d'informations. Et par contre, les gauchistes en avaient. Ils avaient leurs bulletins, ils avaient des gens qui avaient participé à tel conflit, et ils racontaient comment ça s'était passé. Avec les échecs, ou des fois quand il y avait eu des erreurs de commises par le syndicat. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Peut-être qu'il y avait des choses à réfléchir, mais dans les explications, il y avait des choses qui étaient intéressantes.
Ouais.
Donc ça, on les prenait à notre compte.
Ouais.
Comme élément de réflexion.
D'accord.
Par exemple, à Peugeot, il y a eu un certain nombre de délégués qui ont été licenciés immédiatement parce que des gens ont envahi le bureau du directeur et qui étaient très en colère,
ouais.
Des salariés qui étaient très en colère, et ils ont fini par malmener le directeur, bon, avec les bureaux, etc. Et donc la direction départementale du travail a donné l'autorisation pour licencier les délégués qui étaient présents là. Donc on a compris que, et on l'avait mis en pratique. Un jour, Fred Lippe, avec une vingtaine de cadres, était venu pour forcer le barrage qui était mis devant le service d'expédition.
Ouais.
Et on nous a appelé tout de suite. Moi, je sais que tout de suite j'ai dit oh là là, Peugeot, attention. Et on a demandé tout de suite aux délégués de se mettre en barrage devant, comme ça, devant la pression qu'exerçait Fred Lippe pour de façon à ce qu'il n'y ait pas de coup de poing, qu'il n'y ait rien. Et les gens qui n'avaient pas cette expérience derrière. Donc voilà, on s'est mis là. Et bon, alors, on a demandé aux gens de pousser quoi, contre, pour ne pas qu'ils viennent envahir le.
D'accord.
Voilà, ça s'est terminé sans, bon, il y a eu des échanges un peu, mais sans vraiment bataille, sans coup. Mais ça, on savait. Autrement, on pouvait arriver à une situation dramatique,
ouais.
Rapidement.
Ouais.
Donc, toutes ces expériences-là, qui n'étaient pas assez données par la fédération, on les piochait, ici ou là. Bah, par exemple, dans des revues gauchistes ou ailleurs.
Voilà.
Voilà. Cahier de mai ou
ouais.
Voilà. C'est un petit peu ça qui nous a. En fait, on disait, bien sûr on sait bien qu'il y a de l'utopie, il y a des choses qui ne correspondent pas à la réalité, mais ils vivent des choses et ils l'écrivent. Voyons voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-dedans.
Voilà. D'accord.
C'était
d'accord.
Ça.
Donc vous aviez affaire à des gens comme Robert.
Oui, il y avait Lutte Ouvrière, il y avait la Ligue, plusieurs groupes Mao.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que un des leaders d'un groupe Mao les plus durs, oh là là, l'affrontement qu'on avait pendant 73 en ville par rapport à lui, et bon, bah maintenant j'ai vu qu'il était à l'UMP. Il est derrière Sarkozy.
Comment il s'appelle?
Ah, je sais pas, je vais pas trop lui dire son nom, c'est pas la peine. Mais je lui ai dit, bon, tu te rappelles comme tu étais, bon, là.
Oui, c'est vrai que les gens changent de cap.
Pourquoi pas, on peut changer, ouais. Mais. Entre les discours qu'il tenait sur le capitalisme et puis aujourd'hui, il y a vraiment un énorme changement.
Ouais.
Ah, bon,
ouais.
Ah,
ouais.
N'en parlons plus.
D'accord. Alors, après que vous avez été chassé de l'usine, tout cela est devenu beaucoup plus difficile.
Ah, bien sûr.
Bien sûr.
Ouais. Bien sûr, le fait d'occuper l'usine, c'est un avantage important.
Ouais.
Et le fait pour le gouvernement de l'occuper est un avantage important pour lui.
Oui.
Bien sûr. Et là, il a fallu imaginer, reconstruire l'usine dans Besançon. Bon, avec des palliatifs, on sait bien que ce n'est jamais l'usine. Mais bon, on avait un secteur comme le gymnase Jean-Zé, on avait fait des cloisons, les commissions pouvaient se réunir à l'intérieur, on avait donc construit des cloisons, tout ça. Et puis, ça remplaçait péniblement, difficilement l'usine. De même qu'il y a eu le restaurant qu'on a rebâti à Brugy, dans un ancien fort de la ville, et puis les ateliers clandestins qu'on avait montés avant, parce qu'on avait pensé qu'il y aurait un jour l'occupation.
Ah ouais,
donc on avait enlevé des établis, des machines et du matériel pour pouvoir continuer de monter des montres en dehors de l'usine. Voilà, bon, tout ça, c'était moins bien, mais c'était quelque chose qui d'habitude casse et assomme un mouvement.
Ouais.
D'habitude, quand le gouvernement occupe une usine, etc., chasse les salariés, c'est souvent la fin.
Ouais.
parce qu'ils sont assommés. Et là, on a réussi à rebondir. On a réussi à montrer qu'on n'était pas assommés, etc. Donc voilà. En fait, la réflexion, elle était toujours comme ça. Par exemple, Henri Giraud, envoyé du gouvernement, va venir à Besançon, va venir à Ypres. Bon, on l'attendait. Qu'est-ce qu'on a fait en Assemblée Générale? On a réfléchi comme ça, un petit peu aussi par amusement, mais aussi par réflexion. On a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, on était tous ensemble. Il y en a un qui a dit, bah, c'est la mode, il va dire qu'il a été chômeur aussi, lui. Ah oui, ben, certains, alors on retient, il va nous dire qu'il était chômeur. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il va nous dire qu'il nous comprend. Bon, alors on retient. Donc, on avait, et quand Giraud est arrivé, il a repris, mais pratiquement tout ce qu'on avait réfléchi. Il a dit, je vous comprends. J'ai été moi aussi chômeur. Tout le monde se met à rire. Toute la masse des gens rit. Alors il n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on rit quand j'ai dit que j'ai été chômeur, etc. Voilà. Et puis on avait parlé de la division. Alors tout le monde a compris. Autrement dit, on avait préparé l'événement. Pareil quand le ministre Charbonnel avait lancé son plan. On a dit quel plan il va être. Son plan va certainement ressembler à celui des Bochessa. Donc on a réfléchi en Assemblée Générale ensemble. Et ça permettait d'amortir les coûts.
D'accord.
D'amortir les coûts et de les retourner un peu, partiellement. Partiellement. Ouais.
Ouais. Mais l'extraordinaire, c'est que vous avez gardé les gens avec vous. Enfin, la communauté de l'IP a continué pendant des mois.
Bien sûr.
C'est
bien
extraordinaire. Bien. Comment vous expliquez ça?
Eh bien, parce que justement, on avait atteint un degré de crédibilité du collectif pour résoudre nos problèmes à un degré important.
Ouais.
Mais quand on voit ça, le film, c'est peu de choses à côté du deuxième conflit.
Oui, oui.
Quatre
oui.
années.
Oui.
Quand on a terminé, on a démarré le deuxième conflit à 630. Parce qu'il y a une partie qui était tellement assommée, quand ils ont remis la clé sous la porte, on ne va pas se rebattre comme on a fait. Il y a une partie qui a dit, moi j'abandonne, parce que vraiment c'est trop dur. Les 630 qu'on était, 4 ans après, quand on a signé l'accord avec le gouvernement sur les coopératives, eh bien, on était encore 400, un peu plus de 400, 405, 406, à venir tous les matins à l'usine à 7h le matin pour lutter, pour arriver à gagner. 4 ans après.
Parce que le deuxième conflit était en 76.
Alors il a commencé en 76, au mois de mai 76, et il s'est terminé en 80, quand on a eu une usine de Besançon, quand on nous a donné une usine de Besançon, enfin donné, où il fallait payer la location, etc. Mais donc il y a eu la régularisation des coopératives. Mais il a fallu 4 années de combat. Puis après, des années de combat à l'intérieur des coopératives. Moi, j'étais tellement épuisé.
Voilà.
Quand j'étais tellement épuisé pendant la coopérative que 2 années après, deux années et demie après, j'étais incapable de continuer parce que je supportais plus une discussion de 5 minutes. J'avais des maux de tête terribles et puis j'étais complètement, les nerfs avaient pris le dessus. Donc, j'ai profité d'un système que le gouvernement avait mis en place, d'échanger un vieux contre un jeune. Donc je suis parti en pré-retraite, parce que j'étais au bout.
En
83.
83,
oui. Je suis parti en pré-retraite parce que j'étais au bout du rouleau. Voilà, donc j'apportais plus rien dans cette coopérative. Quand t'es au bout du rouleau, on n'apporte plus rien. Donc ça a continué, et ils ont réussi. Ils ont fini par réussir à rentabiliser cette coopérative.
D'accord, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait combien de coopératives?
Il y en avait 6.
6.
Ouais. Plus l'entreprise qui a été construite par les cadres et des mécaniciens, qui est issue de la réflexion du deuxième conflit. On avait réfléchi dans le deuxième conflit à qu'est-ce qu'on peut faire. Et il y avait tout un groupe qui avait été voir les douanes et voir qu'est-ce qu'on importait. On s'est rendu compte qu'on importait beaucoup de matériel médical, et ce matériel médical, il était à notre portée. Et donc, on avait visité toute une série d'hôpitaux, voir les dirigeants des hôpitaux, et donc on a lancé une entreprise de matériel médical. Et c'est sur cette base-là que Statis, qui est toujours à Besançon, puis qui est une entreprise de pointe, continue là-dessus.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc il y a eu plein d'idées qui sont extraites de là. Bon, il y a eu des coopératives qui ont malheureusement sombré au bout de 10 ans, 8 ans, 12 ans. Mais bon, voilà, c'est pas jamais facile.
On n'a pas parlé de votre famille.
Ben, ma famille, moi donc, j'avais que mon père, ma mère.
Mais je veux dire, pendant, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de familles qui ont souffert
au cours de. Ah, ouais, alors ma famille, ah d'accord.
Oui.
Alors ma famille, donc mon épouse et puis mes 6 enfants, oui. Bah oui, ça, mon épouse a souffert, bah oui, ici. Ici, elle a beaucoup souffert parce que j'étais pas assez là. J'étais pas assez là, puis 6 enfants, même si à l'époque. On s'en occupait pas autant qu'on s'en occupe quand il y en a un ou deux aujourd'hui.
Ouais.
Et puis, on faisait enfin, aujourd'hui, l'enfant, on l'emmène faire de la culture, du sport, on l'emmène faire un tas de choses. À l'époque, ça se faisait pas. Il y avait, donc, le grand s'occupait de l'autre, du plus petit.
Ouais.
Mais malgré tout, ça a été très, très difficile. Voilà. Les bons moments, ma femme le disait, les bons moments, c'est quand on est en vacances. Et puis que tu refuses d'aller nulle part ailleurs, puis qu'on est là tous ensemble, ou là ça va. Mais sinon, t'es difficile à supporter, voilà, par rapport à tes absences.
Oui.
Voilà. Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous portait, enfin, qu'est-ce qui vous portait pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, non, 20 ans, 20 ans plus, 30 ans de lutte, qu'est-ce qui vous a porté ou soutenu?
Ah ben là, c'est la découverte. Petit à petit, j'ai été obligé, dans le syndicalisme, de m'intéresser à autre chose. D'abord, ce qui nous a formés politiquement, c'est la guerre d'Algérie. On a été obligé de s'intéresser à tout ça.
D'accord.
Et on s'est rendu compte, en se heurtant au gouvernement, au CRS, etc., et des journalistes qui venaient de là-bas nous expliquaient ce qui s'y passait. Et on a compris qu'il y avait une analogie entre l'oppression qui était exercé contre les Algériens là-bas par le colonialisme et puis ici une oppression différente, bien différente, mais qui existait quand même par rapport au patronat.
D'accord.
Donc ça a obligé à ça. On a été obligé de s'intéresser au monde, le monde comme, et donc il a fallu que je lise pour ça. Je me sentais comme une obligation. Si je veux dans le coup, il fallait que je lise des journaux qui parlaient de tout ça. Il fallait, et donc à partir de là, je me suis intéressé à comment la domination dans le monde, comment ça a commencé, bien avant les Grecs, bien avant,
ouais.
Pourquoi il y a eu toujours des dominants puis des dominés, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça. Voilà.
Ouais.
Et une fois qu'on est accroché à tout ça, ben, c'est pas facile. Je me rappelle, j'étais tellement fatigué, donc je me suis arrêté, je n'osais plus reprendre de l'engagement. Parce que je me disais, si je reprends de l'engagement, je m'en vais m'y consacrer, et ça va recommencer, je vais avoir toutes ces douleurs, etc. Et bon, j'ai attendu le plus longtemps possible, et puis finalement, quelqu'un est venu me rechoper en me disant, on a mis en place un groupe qui s'appelle Agir contre le chômage, Agir ensemble contre le chômage. Tu peux pas nous parvenir. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, ah, mais t'es plus malade maintenant, ça fait déjà un moment, je vois bien. Voilà, donc je me suis remis là-dedans, ça a recommencé. Voilà.
Rebelle. C'est quoi
ça? Ben, ça fait déjà 14 ans que je suis là-dedans.
Ah, d'accord.
Ouais. Donc, c'est pas le syndicat, là. C'est,
non, non.
Voilà,
c'est plutôt une association.
Voilà, c'est une association nationale. On avait rêvé. Essayer de bousculer un peu les syndicats, bousculer un peu les associations pour faire une sorte de fédération pour lutter contre le chômage. Bon, on s'est un peu gargarisé, on n'a pas réussi, mais on a tout de même bousculé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a des choses qui en restent. Bon, le mouvement a eu son heure de gloire, puis il est retombé à partir de 98-99, il est retombé, et puis maintenant, bah, c'est bien, c'est plus que c'était, mais on est encore utile, parce qu'on apporte la parole des chômeurs, on dénonce, par exemple, quand les organisations syndicales se gargarisent sur les journaux en disant « on vient de signer à l'UNEDIC un accord qui est très, très honorable, très respectable », on dit ce que c'est, cet accord respectable et honorable pour les chômeurs.
D'accord.
On dit ce que c'est. Parce qu'on approfondit l'accord et on essaye de regarder les conséquences, etc. Voilà. Bon, on est encore utile, mais on a perdu l'espoir de fédérer un vaste mouvement. Voilà. On sait qu'il faut que les chômeurs s'allient avec les salariés pour arriver à faire bouger les choses.
Ouais.
Voilà. On est encore loin du compte.
Voilà.
Je ne verrai pas le bout. Hein.
Donc c'est un truc régional ou national ?
National, oui.
Ouais.
Ouais. Mais maintenant, il y avait au moins 150 groupes qui s'étaient formés, 550 groupes ou associations qui s'étaient formées en France. Il n'en reste plus que une soixantaine.
D'accord.
Ouais. Même pas, peut-être même pas 60.
Ouais.
Donc ça a bien rabattu, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais bon.
Dernière petite question. Quand vous réfléchissez à ces années-là, les années LIP, début des années 70, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui reste pour vous ? Et même comment ça a influencé votre vie par la suite ?
Moi j'avais rêvé de devenir un bon professionnel. Finalement, l'entreprise m'a fait monter les échelons, tous les échelons. Et puis, on m'a même nommé, à un moment donné, chef d'atelier. Donc, c'était une consécration professionnelle.
Oui.
Mais, quand je suis arrivé chef d'atelier, j'avais plus cet espoir que j'avais quand j'étais jeune rentré pour me dire, c'est le sommet. Je savais que, oui, c'était intéressant, professionnellement. Et je continue de dire, j'ai mouillé la chemise. Comme salarié, comme professionnel, j'ai vraiment mouillé la chemise, réfléchir, trouver des solutions à des problèmes qui revenaient trop souvent, etc., etc. Mais je savais aussi qu'en même temps, il fallait combattre parce que c'était pas ça qui changeait la société. Qu'il y avait un autre combat qui était tout aussi important ailleurs. Voilà. Et ça ne m'a plus quitté depuis ce moment-là.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, on en est là, quoi.
Bon, très bien, on a très bien travaillé. Je vous remercie de votre témoignage.